RMC 9h-10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
9h31, le retour de ce week-end des experts. C'est la vie numérique avec Raphaël qui m'accompagne comme chaque samedi, 9h-10h. Toutes vos questions en vie numérique sur vos usages de vos appareils numériques, n'hésitez pas, le 3216, l'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone. Raphaël, sujet de société, sujet compliqué, délicat. On va évoquer ce matin le cyberharcèlement.
Oui, alors c'est un sujet récurrent, mais qui est quand même pas mal dans l'actualité. On en a parlé notamment par la loi Avia, la loi de lutte contre la haine en ligne, qui a été en grande partie censurée, donc qui pour le moment a été promue, mais qui ne change pas grand-chose. L'idée initialement, d'ailleurs, c'était de forcer les réseaux sociaux à supprimer les contenus haineux en 24 heures. Ça a été jugé inconstitutionnel, donc ça va pas être mis en place. On a parlé aussi régulièrement des difficultés des réseaux sociaux à lutter contre la haine en ligne, parce que forcément quand on parle de Facebook avec 2 milliards d'utilisateurs, quand on parle de Twitter avec des millions d'utilisateurs, Instagram, YouTube, on comprend bien que humainement c'est impossible de faire le tri, donc c'est des algorithmes, et avec des algorithmes on peut pas faire les choses parfaitement, c'est très compliqué. Et donc il y a des solutions alternatives qui se développent en complément, dont une qui s'appelle Bodyguard. Alors Bodyguard, c'est une application qui a été lancée il y a un an et demi, si je me trompe pas.
Qui a été lancée par Kevin Costner.
Exactement, enfin, avec Whitney Houston.
Ma culture cinématographique, bien évidemment.
Je sais pas si je m'en vanterais à ta place, mais bon, c'est pas grave.
C'est un très bon film
Bodyguard. Bah, la musique, la chanson est quand même.
Oui, bien sûr.
Quand même fait date.
Et puis RIP Whitney Houston, quand même. Voilà,
on salue Whitney Houston.
Voilà.
Et donc, en studio avec nous, alors là, sans transition du coup, on a Charles Cohen, qui est donc fondateur de l'application Bodyguard. Bonjour Charles.
Je voulais dire bon duel. Ça n'a rien à voir là, ça y est.
Bonjour Raphaël, bonjour François.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors juste rappelez-nous et à nos auditeurs le principe concrètement de Bodyguard.
Alors donc Bodyguard, c'est
qui signifie effectivement garde du corps. On traduit quand
qui
même.
Qui signifie, ouais. C'était l'idée de faire un garde du corps virtuel. Donc Bodyguard, c'est une application mobile gratuite, disponible sur Android et sur iPhone, qui vous protège en temps réel du cyberharcèlement et des contenus haineux sur vos réseaux sociaux. Donc l'usage est très très simple. On télécharge l'application, on se connecte avec un ou plusieurs de ces réseaux sociaux,
et à partir donc de je vais rentrer mon login Twitter, mon login Facebook, mon login Instagram, Snapchat, etc.
Tout à fait.
Ça va se connecter à l'appli.
Ça va se connecter à l'appli. En fait, vous allez vous connecter avec vos réseaux sociaux. Vous allez autoriser Bodyguard à gérer votre espace commentaire pour vous. Et nous, on va finalement demander les droits aux plateformes qui vont nous autoriser à gérer votre compte avec. Donc, on demande que ces droits-là, bien entendu. Et une fois que vous êtes connecté, vous allez personnaliser votre modération. C'est-à-dire que pour chaque catégorie de haine, vous allez pouvoir dire à Bodyguard si vous souhaitez les supprimer ou non et avec quel niveau de sévérité. Donc, on détecte les insultes, les moqueries, les menaces, l'harcèlement sexuel, l'harcèlement moral, l'homophobie et le racisme.
Et je peux choisir donc cocher tel ou tel thème de cyberharcèlement.
Et ça va encore même plus loin, c'est-à-dire que vous pouvez, pour chacune des catégories, établir un niveau de sévérité de modération. En proposant une modération faible, forte, très forte, voilà, ou
si
extrêmement
forte. Si on veut vraiment voir aucun mot déplacé, on peut mettre la modération maximale. Alors, il faut quand même préciser, quand vous dites on supprime, évidemment, on ne supprime pas les messages en eux-mêmes, puisque on peut pas supprimer le message d'un autre utilisateur sur Facebook ou Twitter.
Vous les masquez, c'est ça?
En fait, vous les masquez.
Alors, ça dépend des plateformes. Sur Twitter, on va masquer l'auteur du contenu, mais on ne peut pas supprimer un tweet qui ne nous appartient pas. Donc, en effet, le tweet est toujours, finalement, sur la plateforme et masqué de tous. Là où sur YouTube, sur Instagram, c'est votre espace commentaire et vous nous donnez le droit de gérer votre espace commentaire.
Donc, si c'est nos vidéos.
Si c'est vos vidéos.
Oui, si on a une petite chaîne YouTube ou une grosse d'ailleurs,
exactement.
On peut supprimer les commentaires YouTube.
Exactement. Et donc Bodyguard va retirer le contenu de la plateforme et vous pouvez à tout moment, bien entendu, via l'application Bodyguard, le restaurer si besoin. Le fonctionnement, ce qui se passe derrière tout ça, une fois qu'on a personnalisé sa modération, c'est que toutes les 10, 15, 20 secondes, Bodyguard va récupérer tous les contenus qui vous sont destinés. Donc les commentaires sous vos vidéos YouTube, les commentaires sous vos photos Instagram, les gens qui vous mentionnent sur Twitter.
Ça va tout scanner en fait.
Ça va tout récupérer sans les stocker.
C'est comme c'est un robot qui lit, en fait.
Exactement. Il n'y a aucune intervention humaine. C'est un robot qui récupère ses contenus, qui les analyse avec notre technologie. Et si la technologie détecte le contenu comme haineux selon vos critères de modération, l'action de votre choix est effectuée et donc ça peut retirer le contenu, etc.
Et alors juste, ça veut dire que vous faites mieux le boulot, entre guillemets, que les réseaux sociaux, parce qu'ils ont des algorithmes aussi, les réseaux sociaux. Ils sont censés repérer ces contenus.
Alors, les réseaux sociaux ont des algorithmes qu'on appelle de machine et de deep learning qui sont des technologies très performantes pour assister un modérateur humain à modérer un petit peu plus vite. Mais le machine learning ou le deep learning ne peut en aucun cas faire la différence entre un contenu haineux qui est destiné à Emmanuel Macron d'un contenu haineux qui vous est destiné personnellement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de différencier la haine en ligne. On parle de haine en ligne, mais il y a deux types de haine. On a d'un côté le cyberharcèlement, qui sont des contenus haineux destinés à une personne en particulier. Et on a de l'autre côté les discours de haine, qui sont des contenus haineux destinés à un groupe de personnes de par leur religion, leur couleur de peau, etc. Et les technologies utilisées par les plateformes sont efficaces sur les discours de haine. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas protéger un individu parce qu'ils sont incapables de dire que ce contenu haineux en question est destiné à l'utilisateur qu'ils veulent protéger. Mais par contre, ils traitent bien les discours de haine et ils utilisent ces technologies-là qui n'ont finalement aucune analyse contextuelle, c'est-à-dire qu'elles nous donnent une réponse en disant bah, ce contenu-là est haineux à 90%, mais on n'en sait pas plus.
En gros, les réseaux sociaux, ils disent, nous, on regarde tout ce qui se passe de façon, régulière, pareil pour tout le monde, et avec Bodyguard, on dit à l'application, moi je vais peut-être être un peu plus susceptible de recevoir des messages, surveille-moi en particulier.
Exactement, l'avantage de Bodyguard, c'est que Bodyguard vous protégera, vous, à titre de personne, des contenus haineux qui vous sont destinés personnellement. C'est-à-dire que si un ami vous insulte pour rigoler, ou si un ami dit « t'as raison, Tartampion est un con », là Bodyguard ne fera rien.
Parce qu'il sait que vous êtes amis.
Parce qu'il sait qu'on est amis, parce qu'il sait que le contenu n'est pas destiné à la personne qu'on protège. Et donc nous, vraiment, Bodyguard, c'est pour protéger l'individu des attaques qui lui sont destinées personnellement.
Et juste une question, cette technologie, parce que ça veut dire que ça peut détecter le contexte. C'est-à-dire que effectivement, s'il détecte qu'on rigole ensemble et qu'il me balance une insulte, il va dire, bon, bah, c'est deux potes qui rigolent.
Exactement.
Qui c'est qui l'a développé ? Ça, c'est vous, personnellement ?
Alors, c'est moi qui l'ai développé, personnellement. J'ai 24 ans, j'ai commencé la programmation à 10 ans, et c'était une passion pour moi. Donc, je me suis lancé dans ce challenge-là, qui est une technologie qui est beaucoup plus longue à développer que les technologies proposées par les GAFA, qui, elles, ont beaucoup plus de données, mais qui, à terme... et bien mieux. Comment fonctionne la technologie? Je pense que ça
oui,
peut vous intéresser.
Oui, bien sûr, évidemment. Si c'est pas trop compliqué.
Oui, non, j'ai essayé de vulgariser. Donc on reçoit.
Vous allez pas nous dicter des lignes de code.
Non, pas encore. Donc on reçoit un commentaire. On va récupérer les commentaires. On l'analyse avec nos technologies. La technologie, elle va dans un premier temps nettoyer le commentaire. C'est-à-dire qu'elle va retirer toutes les fautes d'orthographe, toutes les fautes de frappe, convertir les emojis pour partir sur une base propre. Une fois qu'elle a nettoyé ce commentaire, on va regarder dans cette phrase les groupes de mots qui sont potentiellement problématique. Donc ça peut être des insultes, ça peut être d'autres mots, et une fois qu'on a repéré ces groupes de mots, on va voir ce qui se passe avant et après dans la phrase. Avant ces groupes de mots et après ces groupes de mots, et c'est ce qu'on appelle une analyse contextuelle. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passe avant ou après, on est capable de dire, bah, on a trouvé une insulte qui est destinée à telle personne. Ça peut être directement à l'utilisateur, ça peut être à Donald Trump, ça peut être à une personne X, ça peut être à un groupe de personnes, et après, on prend la décision, en fonction de vos règles de modération, de retirer ou non le contenu.
Après, la subtilité de la langue française, de toutes les langues, bien sûr, fait qu'il peut y avoir des erreurs, j'imagine, non, dans votre système.
Alors, la technologie détecte 90% des contenus haineux, c'est-à-dire que 9 contenus haineux sur 10 sont détectés en temps réel par Bodyguard.
Ce qui est déjà pas mal.
Et on a 2% en moyenne d'erreurs, 2% de faux positifs. Donc, c'est des contenus haineux qui sont supprimés par erreur, mais restaurés après par des modérateurs humains qui sont chez Bodyguard.
Témoignage de Christophe au 32-16. Bonjour Christophe.
Allô, bonjour messieurs.
Bonjour Christophe.
Bienvenue Christophe. Alors vous appelez pour nous raconter un petit peu la manière dont votre fils dialogue avec ses potes durant les jeux vidéo, les choses comme ça.
Oui, tout à fait, oui.
Allez-y,
en fait,
allez-y.
Comme il est, il est un peu jeune. Moi je suis de l'ancienne école, donc je me sens des fois un peu dépassé. Donc une fois, j'ai trouvé en train de discuter avec ses potes et tout sur un jeu vidéo, ses camarades de classe. Donc j'étais un peu surpris, mais comme j'avais pas de vraiment d'avertisseur pour m'indiquer comme quoi il il était en contact avec eux, quoi, en fait.
Mais qu'est-ce que vous avez découvert, Christophe?
Qu'est-ce qui vous choquait, en fait?
Qu'est-ce qui vous a choqué?
Discute, ou c'était les propos que vous avez lus qui vous ont choqué?
Non, c'est plus le fait qu'ils discutent.
Oui, vous avez été surpris de cette possibilité. Vous ne pensiez pas qu'il pouvait, en fait, dialoguer avec ses potes.
Voilà, tout à fait.
D'accord. Ah bah oui.
Mais c'est un peu le problème de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que bon, après c'est pas nouveau, c'est vrai que ce qui se passe dans la cour de récré, c'est pareil, ça échappe aussi parfois aux parents, et sur les réseaux sociaux ça reste sous les radars. Alors là on va parler des plus jeunes forcément. Est-ce que Bodyguard, parce que il y a eu pas mal de stars qui ont communiqué sur Bodyguard, est-ce que c'est une application qui s'adresse vraiment à tout le monde?
Alors vous savez quoi, on va faire du hall suspense. Ah ben, voilà, on remercie Christophe en tout cas pour son petit témoignage. Raphaël, je t'ai coupé l'herbe sous le pied.
C'est marrant. C'est pas grave.
On revient dans un instant pour répondre justement à cette question avec notre invité. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre vie numérique.
RMC jusqu'à 10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
10h moins le quart, le retour de ce week-end des experts. On termine notre rendez-vous vie numérique avec Raphaël Grabli et notre invité Charles Cohen, qui est fondateur de la start-up Bodyguard, une application qui protège en fait contre le cyberharcèlement. Charles nous expliquait il y a un instant comment ça fonctionnait. On n'a pas terminé avec le cyberharcèlement, parce que c'est vrai que Raphaël, il y a à la fois, on va dire, monsieur, madame, tout le monde, hein, qui peut être visé par le cyberharcèlement. Et puis après, des personnalités publiques.
Forcément.
Qui, elles, bon, voilà, ont, évidemment, de par leur audience, sont encore plus exposées au cyberharcèlement.
Et c'est vrai qu'on a d'ailleurs entendu parler de Bodyguard initialement, alors pas mal, avec Bilal Hassani, qui s'était fait cyberharceler, qui avait utilisé l'application. Il y a des politiques aussi qui utilisent Bodyguard. Je crois qu'il y a Aurore Berger qui utilise Bodyguard. Il y en a d'autres. Alors bon, on va pas dire tous les noms, mais en gros, le fond de ma question, c'est... est-ce que c'est une application qui ne sert qu'aux personnalités publiques, ou alors qui ont une communauté, en tout cas sur Internet, ou est-ce que ça peut concerner tous les enfants?
Alors, il faut savoir qu'à l'origine, Bodyguard, en plus de lutter contre ce fléau, je l'ai également créé pour finalement comme un outil d'aide à la création, dans le sens où le cyberharcèlement et la haine en ligne entraînent de l'autocensure chez beaucoup de personnes. Et il y a beaucoup de jeunes enfants qui n'osent pas s'exposer publiquement sur Internet, créer des vidéos de peur de se faire insulter. Donc à la base, Bodyguard, c'était également un outil d'aide à la création. Et une fois protégés, les enfants osaient enfin créer du contenu et s'exposer et laisser libre à leur création.
Après, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans.
Exactement. Par enfant, je parlais des enfants de plus de 13 ans, même si entre nous, il y a beaucoup d'utilisateurs de Bodyguard qui ont moins de 13 ans.
Très concrètement, il y a beaucoup d'utilisateurs des réseaux sociaux qui sont très très jeunes, qui ont moins de 10 ans parfois.
Tout à fait. Donc au début, c'était une application qui était surtout utilisée par les enfants, et maintenant, petit à petit, c'est extrêmement varié. Ça va du journaliste à l'influenceur de 10 millions d'abonnés, au ministre, au député. On protège vraiment tout le monde sans aucune distinction.
C'est vrai qu'on parle beaucoup des enfants, mais les adultes ont aussi besoin d'être protégés du cyberharcèlement.
Ils ont besoin d'être protégés, c'est pas vraiment pour les mêmes problèmes, mais ils ont également besoin d'être protégés, et nous on protège vraiment tout le monde gratuitement du cyberharcèlement, et on ne fait aucune distinction sur qui on protège.
Est-ce que la fameuse loi Avia règle des problèmes ou pas, Charles?
Alors le problème pour moi, il y a un souci au niveau de la loi Avia, c'est la communication.
Qui est une loi qui a été donc mise en place pour lutter contre le cyberharcèlement. Hein.
Et qui a été un peu vidée de sa substance, puisqu'elle a été censurée. Alors, si je rappelle simplement, la principale mesure de la loi Avia, c'était de dire les réseaux sociaux, dès qu'on vous signale un contenu illicite, faut le supprimer en 24 heures, sinon vous avez une amende énorme.
Tout à fait. Cet article 1 a été retiré, donc elle n'a plus vraiment d'utilité. Je pense que pour parler très vite de la loi Avia, il y a eu un problème de communication autour de cette loi. On parle de haine en ligne, mais il faut diviser les deux choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. La haine, c'est deux choses. C'est le cyberharcèlement, des contenus haineux destinés à une personne en particulier, et les discours de haine, des contenus haineux destinés à un groupe de personnes, de par leur religion. Sur le cyberharcèlement, il y a une vraie nécessité d'une loi Avia. C'est-à-dire qu'on ne devrait même pas attendre 24 heures pour supprimer un contenu haineux. Le mal est déjà fait, ça ne sert à rien. Donc, tous les contenus liés au cyberharcèlement, on doit les retirer le plus vite possible, parce que ça fait des suicides. Là où, par contre, pour les discours de haine, là, il y a débat. Et pour moi, c'est ce qu'on a chez Bodyguard, c'est notre vision chez Bodyguard. Pour nous, il faut une modération à l'utilisateur, où chacun des utilisateurs peut fixer un curseur, au moins, il n'y a pas de problème.
Oui, c'est la limite entre la liberté d'expression et le cyberharcèlement.
Tout le monde est
là,
content.
Il n'y a pas de débat. Faut évidemment
tout le monde a sa liberté.
Et dernière question, Bodyguard, ça permet aussi de signaler, parce que là, on peut masquer des contenus, mais est-ce qu'on peut demander à la plateforme de supprimer des contenus? Parce que là, on parle de suppression. Oui. Et est-ce que derrière, ça peut aller encore plus loin en alertant, je ne sais pas moi, les autorités? Parce que derrière, c'est quand même illégal tout ça. Donc, il faut quand même derrière que ça puisse suivre au niveau, éventuellement, s'il le faut, policier ou...
Tout à fait. Et on accompagne beaucoup de nos utilisateurs en leur fournissant tous les contenus et ne supprimer sous format Excel pour que les aider à porter plainte. Exactement. Et derrière, sur certains contenus, on signale les contenus aux plateformes.
Merci beaucoup Charles Cohen.
Merci à vous. Merci
Bodyguard donc sur iOS et Android. On peut tester.
Et je rappelle que les réseaux sociaux, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas forcément anonymes. On a des pseudonymes, mais ils ne sont pas anonymes. C'est-à-dire que s'il y a une plainte, le réseau social, Twitter, Facebook, va donner l'adresse IP de la personne et la police va remonter jusqu'à cette personne. Donc on n'y a pas d'impunité sur Internet.
Philippe est avec nous au 32-16. On passe carrément à autre chose, un sujet un petit peu plus léger. Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe. Bonjour à vous.
Et bienvenue sur RMC, Philippe. On vous écoute.
Merci. Alors, j'avais une petite question. Nous avons un vieux PC à changer et je m'étais intéressé au Lenovo Chromebook C340-11 qui me paraissait sympa, sachant qu'on fait de la bureautique vraiment de base de chez base, quoi. Et je voulais savoir si c'était un produit qui pouvait convenir à notre utilisation.
Alors, j'ai une question. Vous l'avez vu à quel prix ce produit? Parce que j'ai pas le prix en tête, pour être honnête.
Alors, la dernière fois que je l'ai vu, parce qu'on n'a pas pu le trouver, il n'est pas disponible.
Ouais.
Ça coûtait 399 €.
D'accord.
Ah oui.
Oui, non, c'est vrai que c'est pas cher. En fait, on en a parlé assez récemment des Chromebooks. L'intérêt des Chromebooks, okay, c'est souvent le rapport qualité-prix.
Vous savez ce que c'est vraiment, Philippe, hein, Chromebook, vous voulez qu'on vous le rappelle?
Je veux bien. Alors moi, pour l'instant, j'utilise principalement une tablette iPad, mais c'est trop limité au niveau des applications. Certains sites ne passent pas, on ne le voit pas tout entier.
D'accord. Un Chromebook, vous savez ce que c'est ou pas?
C'est une tablette, je pense.
Bah, ça ressemble. Pas tout à fait. C'est pas une tablette, c'est un ordinateur, mais sous Chrome OS, c'est-à-dire que c'est pas sous Windows. Donc en fait, c'est un système d'exploitation qui est un peu comme une tablette, un peu mobile. Donc si c'est ce qui vous embête, moi, à votre place, j'irais peut-être vers un PC plus classique, c'est-à-dire sur Windows.
Alors, ça m'embête pas en fait.
J'ai peur que vous retrouviez les mêmes limites que sur votre tablette quelque part. Ah, un Chromebook, d'accord, c'est bien pour avoir des applications.
Vous pouvez pas stocker grand chose en fait sur un Chromebook.
Et vous pouvez rien stocker, enfin pas grand chose, hein, franchement.
D'accord, donc il faudrait mieux que je me rende vers un PC, un petit PC. Quoi.
Si c'est un usage proche de tablette avec clavier, c'est intéressant parce que c'est pas cher les Chromebooks, mais il faut partir du principe qu'on a des applications et on n'a pas tous les logiciels comme sur Windows, notamment la suite Office par exemple, c'est l'application, mais c'est pas exactement les mêmes fonctions. Donc ça correspond très bien pour un usage très 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 simple, mais si vous vous sentez frustré par une tablette, je me demande s'il faut pas quand même vous tourner un PC classique.
Philippe, ce qui vous séduisait, c'était le prix. C'est ça?
Le prix déjà, et puis la facilité de l'emporter. Il me faut une imprimante aussi sans fil, Wi-Fi.
Après, sur le côté encombrement, franchement, les ultra portables aujourd'hui, c'est très très fin. Hein. Franchement, vous trouvez un 13 pouces, il n'y a aucun problème.
Sans doute pas 300.
Alors, vous ne le trouverez pas à ce prix-là. Vous le trouverez plutôt dans les 600 euros plutôt, les premiers prix. Mais regardez, par contre, vous pouvez rester chez Lenovo parce que Lenovo, en rapport qualité-prix, ils sont bons pour une raison simple, c'est que je crois que c'est le plus gros fabricant quasiment de PC portables au monde. Donc ils ont des quantités énormes, donc ils arrivent à faire des prix bas parce qu'ils achètent les composants en grande quantité. Donc Lenovo, sur le rapport qui a été pris, c'est pas mal, hein. Donc moi, je pense que vous pouvez rester chez Lenovo, mais voilà, je veux juste vous mettre en garde sur le Chromebook qui est très intéressant, mais pour un type d'utilisateur précis. Et vous qui êtes frustré par le côté mobile de la tablette, j'ai peur que vous retrouviez cette frustration.
Voilà, Philippe, merci beaucoup, en tout cas. Eh bien, Raphaël, on se retrouve la semaine prochaine.
Bien sûr, avec plaisir.
On sera là entre 9h et 10h sur RMC pour ce rendez-vous Vie numérique avec toutes vos questions sur tous nos usages liés au numérique. Je vous retrouve bien sûr demain. Demain, on sera là. Alors, 6h, 7h, de quoi je me mail. On parlera smartphone, tiens, avec Nicolas Lelouch, que tu connais bien, journaliste à 0net.com. On dressera le top 10 des meilleurs smartphones du moment. Comme ça, vous pourrez choisir. Et à partir de 7h, 3h d'automobile avec Jean-Luc Moreau. Que faire lorsqu'on tombe en panne sur l'autoroute avec sa voiture? Il nous donnera tous ses conseils. Quel véhicule électrique possède le record d'autonomie? Et puis, surtout, on aura un quiz de l'été qui durera plus de 40 minutes avec Maître Rémi Jossé. Jossôme qui sera là et on va bien s'amuser. Maître Rémi Jossôme essaiera de nous coincer avec ses questions sur le code de la route. Qui va gagner, Jean-Luc ou moi? Vous le saurez demain. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. On se retrouve donc demain et